Dieu, est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, après les salutations d'usage, il parle des bénédictions de Dieu, il parle de ses grâces, il parle de son amour, et il se réjouit de ce que Dieu a fait par son sacrifice à la croix du calvaire en nous offrant son Fils. Il se réjouit de l'union des païens et des juifs qui vivent la même expérience. Et dans le chapitre 3, au verset 19, et même à partir du verset 14, à cause de toutes ces choses, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Alors, Éphésiens, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et que nous demandons. Et sa volonté, c'est de remplir nos vies. Alors, on va voir avec quoi et par quels moyens le Seigneur remplit nos vies. Et il ne veut pas simplement, et nous allons le voir au fur et à mesure, le faire à moitié, mais il veut que nous soyons dans la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vienne occuper toute notre vie, notre être tout entier. Lorsque vous avez connu la grâce du Seigneur, lorsque cet amour vous a été manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ, je pense et je suis certain en vous voyant que vous êtes devenus, comme l'Écriture le rappelle, de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors bien sûr, je n'ai pas rajeuni, j'ai toujours l'âge de mes artères, mais dans notre cœur, dans notre être tout entier, le Seigneur a opéré une transformation. Autrefois, nous étions esclaves du péché, Dieu nous en a libérés parce que nous avons accepté son pardon, nous avons accepté son salut, nous avons accepté son amour et tout ce qui remplissait notre vie a été enlevé. Et comme la nature, disait Aristote, a horreur du vide, eh bien tout cela a été remplacé par la présence de Dieu. Nous n'avons rien de commun avec le passé, du moins je le crois. En agissant ainsi, je sais que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Et il y a un texte dans l'Écriture que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. Alors, aucune comparaison avec le message d'aujourd'hui, mais simplement sur le principe que Dieu avait établi. Vous savez, lorsque une personne se vendait comme esclave à un maître, il le servait pendant 6 ans, et la 7e année, c'était l'année de relâche, où cet homme avait le choix entre soit, parce qu'il aimait son maître, rester avec lui, et à ce moment-là, il avait certaines pratiques, ou alors, il choisissait la liberté. Mais quand il était libre, il y avait dans les lois et les ordonnances que Dieu avait établies, il est écrit ceci, « Tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide, tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. » Alors bien sûr, ne cherchez pas à comparer le maître, ce n'est pas là l'objet, mais simplement par cette loi et cette ordonnance, où cet homme, après avoir été libéré, avoir été affranchi, il ne repartait pas à vide. Ce maître lui donnait, parce que Dieu l'avait ordonné, des ressources nécessaires, et pour une simple et bonne raison, et on parle souvent de réinsertion dans la vie sociale, lorsque des détenus, avant d'être libérés, eh bien, ils ont l'occasion, on leur offre cette opportunité, d'apprendre un métier, de choisir ce qu'ils désirent faire à leur sortie de leur incarcération, pour pouvoir se réinsérer plus facilement dans la vie civile. Certains deviennent avocats, d'autres deviennent électriciens, d'autres menuisiers, peu importe. Et cela était, pour l'époque, était une obligation pour ne pas que l'homme se trouvant, ou la personne qui avait accepté la liberté, se trouve démuni, et lorsqu'il revenait ou lorsqu'il réintégrait la vie sociale, il ne puisse pas retomber dans les mêmes travers et aller de nouveau se vendre comme esclave parce qu'il n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins. Et c'est une chose importante. Et le Seigneur, avec chacun de nous, lorsqu'il nous a rendus libres, eh bien, il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir, eh bien, être, comment dirais-je moi, avoir tous les atouts pour réussir notre nouvelle existence. Le Seigneur ne nous a pas renvoyé à vide, c'est vrai. Est-ce que vous avez reçu des grâces du Seigneur? Est-ce que vous avez reçu son pardon? Est-ce que vous avez reçu son amour? Est-ce que vous avez reçu et vous recevez chaque jour grâce sur grâce? Je sais que pour ma part, et bien j'en connais pas mal au milieu de nous, qui bénissent Dieu pour toutes les grâces. Et ce matin, vous l'avez fait spontanément. Vous avez béni le Seigneur pour tout ce qu'il vous a accordé, tout ce qu'il vous accorde chaque jour. Dans Parole vivante, j'ai relevé ceci qui est très expressif, et c'est toujours dans Éphésiens un petit peu avant. Il nous est dit concernant Dieu, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition, et je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Les ressources de Dieu sont infinies. Il a des trésors de grâce à notre disposition. Et ces trésors, cette richesse, il veut nous la donner, nous les donner, et il veut que nos vies soient remplies de tout ce qu'il a de meilleur pour chacun d'entre nous. Jésus lui-même l'a déclaré, et vous connaissez ces paroles de l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu veut nous conduire et Dieu veut nous remplir au-delà de toute mesure, nous l'avons lu tout à l'heure, il veut nous remplir et le faire avec abondance. Une autre version dit, « Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. » Alors c'est plus que l'abondance, c'est surabondante. Et vous connaissez ce verset, vous le citez souvent, « Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. » C'est une vérité. Et Dieu se présente à nous comme étant le berger, le bon berger. Dans le psaume 23, il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me conduit près des eaux paisibles, dans l'abondance, chaque jour. Et c'est une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir être ce berger qui nous donne, et qui ne nous donne pas simplement avec parcimonie, qui ne nous donne pas ses bénédictions au compte-gouttes un jour un peu, un autre jour un petit peu plus, mais il veut nous combler, il veut nous remplir jusqu'à ce que ça déborde. Et c'est bien quand ça déborde, parce que ça fait du bien. C'est d'avoir ce sentiment de satisfaction, d'épanouissement, de force tranquille. Hein. C'est bien quand on est rempli, quand on est peut-être après un bon repas, quand vous avez bien mangé, hein, vous connaissez ce sentiment de satiété, de bien-être, vous êtes, hein, non, ne parlons pas de repas avant, c'est pas encore l'heure, on va vous mettre l'eau à la bouche. Hein, lorsque nous avons toutes ces choses et que Dieu nous les donne en abondance, eh bien, nous sommes tranquilles, nous avons cette force, cette puissance qu'il nous accorde, parce que Dieu est bon, et nous l'avons chanté aussi ce matin, Dieu est bon en tout temps, et chaque jour, il renouvelle, comme le disait le prophète Jérémie, hein, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et s'il nous arrivait parfois de manquer de quelque chose, eh bien, il suffit de demander au Seigneur et cela nous est accordé parce que le Seigneur est bon. Et dans la parole de Dieu, comment ressentir cette plénitude? Comment, au travers de la parole, le Seigneur nous aide à le découvrir et parvenir à ce que les uns et les autres, nous soyons remplis, comme nous l'avons lu, jusqu'à la plénitude de Dieu. Dieu ne veut pas faire les choses à moitié. Quand on est soit optimiste ou pessimiste, on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais avec Dieu, c'est plein. Avec Dieu, ça déborde. Le ruisseau de Dieu est plein. Vous le savez ? Amen. Je ne sais pas si nous y parviendrons totalement. C'est une longue marche, c'est un cheminement que nous faisons avec le Seigneur, en comptant tous les jours sur sa grâce. Et l'apôtre Paul disait ceci, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Pouvoir recevoir cette plénitude, pouvoir être rempli totalement, pouvoir avoir cette vie de l'esprit, cette vie que Dieu veut nous donner, eh bien, nous devons chaque jour faire des efforts. Tout ne s'acquiert pas facilement. Sans un peu de travail, disait un certain fabuliste, on n'a point de plaisir. Et c'est vrai qu'il faut tous les jours peut-être faire des efforts, tous les jours passer des moments dans la présence de Dieu, dans la lecture de sa parole, et les choses se font progressivement. On dit que Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Et ce que Dieu désire faire dans nos vies, eh bien, ça ne va pas se faire automatiquement s'il n'y a pas des efforts de notre part. Nous avons lu au verset 16, l'apôtre dit ceci, « D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Nous avons besoin de ressentir cette puissance. Dieu est puissant et il ne rejette personne. Dieu est puissant par son amour, Dieu est puissant par sa personne. C'est la puissance même incarnée. Nous voyons comment Jésus a réalisé tous les miracles. Et cette puissance, eh bien, elle est à notre disposition. Nous pouvons nous en servir. Le Seigneur a-t-il toute la place dans nos vies, toute la liberté pour nous conduire, pour nous encourager, nous fortifier, afin que nous puissions grandir, marcher de progrès en progrès. L'apôtre Paul, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, mais il n'est pas le seul à pouvoir expérimenter cette même pensée, cette même vie. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avoir cette plénitude de la puissance de Dieu, et Paul l'avait dans sa vie, et il savait que cette puissance, elle s'accomplissait tous les jours quand il annonçait la parole, quand il prêchait, quand il allait voir les églises, eh bien, il apportait des paroles d'encouragement, il apportait cette puissance parce que Dieu, eh bien, l'avait rempli, parce qu'un jour il avait connu cet amour, il avait connu cette expérience de la transformation, du pardon, du rachat, et cette vie nouvelle qu'il avait en lui-même, eh bien, il la transmettait aux autres. Être puissamment fortifié par l'esprit dans notre être intérieur. Peut-être ça ne se voit pas sur le visage, peut-être ça ne se voit pas dans nos vies, mais dans nos cœurs, eh bien, nous avons cette certitude que Dieu peut agir et que Dieu agit puissamment. Et c'est pour cela qu'il a tellement agi, il a tellement fait pour nous, qu'il nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a bénis et il nous bénit chaque jour. Nous sommes sujets parfois à bien des faiblesses. Et qui n'est faible que je ne sois faible, dit l'Écriture. Notre vieille nature, parfois, a tendance à nous reprendre, à nous faire des croche-pieds. Notre vieille nature a tendance, parfois, à prendre sa revanche. Ça vous arrive, des fois, peut-être, de... Non, pas vous. Moi, oui. Peut-être de vous mettre en colère. Hein? Peut-être de bougonner. Peut-être de rouspéter. Et pour ça, l'écriture. Ouais, bon, il y en a qui sourient là, qui connaissent bien. Pierre rappellera ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Besoin dans notre vie de la puissance de Dieu pour nous fortifier, pour nous encourager, afin de pouvoir résister dans les moments difficiles, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser aller à l'abandon, mais de pouvoir être fort, de pouvoir être courageux. Et pour cela, il est une chose qui est nécessaire, et cela nous est rappelé aussi au verset 17, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Littéralement, c'est « soyez enracinés ». Un impératif, « soyez enracinés ». Et cette notion d'enracinement, on la trouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Vous savez, vous vous promenez parfois dans la campagne, et la région de Moissac et le Tarn-et-Garonne en particulier, c'est une région où il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et lorsque vous passez près d'un verger, vous avez remarqué certainement que les arbres sont bien alignés, qu'il y a des piquets tous les 10 ou 12 mètres, qu'il y a des fils de fer, un palissage, pour la simple et bonne raison, c'est que les arbres qui sont plantés n'ont pas beaucoup d'enracinement. Et s'il n'y avait pas tous ces tuteurs, toute cette structure, bien le moindre coup de vent, la moindre charge au moment de la récolte, ces arbres s'écrouleraient. Quand Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, parle de la semence qui tombe en terre, la semence qui tombe au milieu des cailloux, elle lève, mais quand vient une difficulté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fane parce qu'elle manque d'enracinement. Et si nous voulons être forts, si nous voulons être puissants, si nous voulons être remplis de la puissance de Dieu, eh bien nous avons besoin de puiser notre force par un enracinement profond. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller se mettre dans le sable et s'arroser les pieds pour pouvoir avoir des racines qui poussent, c'est pas ça la question, mais simplement que notre force, notre dynamisme, notre courage, eh bien, nous allons pas le trouver dans notre propre ressource, même si nous avons beaucoup de qualités, et vous en avez, j'en suis sûr, mais il est impossible de comprendre et de mesurer la grandeur de l'amour de Dieu à notre égard. Et cette force, cette puissance, ce courage, eh bien, nous le trouvons dans la parole de Dieu, en allant profondément, en allant puiser dans la parole de Dieu, dans la connaissance, dans ce que la parole nous enseigne. Il y a quelque temps, Michael nous partageait cette parole de la pêche miraculeuse, et Jésus avait demandé à Pierre d'aller profondément, d'aller puiser, autrement que dans les habitudes, mais d'aller puiser, aller encore plus en profondeur dans sa connaissance. Et en allant plus en profondeur dans sa connaissance, eh bien, il a pu recevoir cette parole, « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Après avoir été un pêcheur sur le lac de Tibériade, eh bien, Jésus s'en est servi pour en faire un prêcheur, un évangéliste, un apôtre qui a pu annoncer la parole de Dieu. Dieu s'est servi de lui parce qu'un jour il a voulu aller plus en profondeur dans la connaissance de son Seigneur et de son Maître. Nous avons un Dieu sans égal. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Un Dieu sans égal, un Seigneur et un Maître qui n'a pas son pareil sur cette terre et qui n'aura jamais son pareil. Un amour que le Seigneur a manifesté à tous les hommes, à toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un amour qui s'est fait sans distinction, ni de race, ni de couleur de peau, ni de situation sociale, que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, tout le monde a la même part de salut, la même part de pardon, tout le monde a la même part d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est malheureux, et c'est oui malheureux de constater que dans cette humanité, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup rejettent cet amour. Des milliers d'êtres humains tournent le dos à l'amour que Dieu veut leur manifester. Beaucoup sont dans la détresse, beaucoup sont dans le désarroi, parce qu'ils négligent l'essentiel. Ils négligent ce pardon qui a été donné à la croix du calvaire, ils négligent cet amour qui leur est offert gratuitement. Ils se sont moqués, ils se moquent encore. Aujourd'hui, si l'on veut parler de Dieu, si l'on veut parler ouvertement, on est souvent méprisé, on est souvent moqué, mais nous voulons être de ceux qui, comme le déclare l'apôtre, Christian. Ah ouais. Bon, vous m'entendez quand même, hein, même s'il n'y a pas le micro. Je pense qu'on peut parler sans micro. Ah bon, ça va mieux. Merci, monsieur le technicien. Allez chercher ses forces dans le courant, dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans l'enseignement. Et pas simplement l'enseignement, parce qu'on peut lire, la parole, on peut la relire, on peut connaître certains versets, mais si l'on veut approfondir, eh bien, il faut la méditer, faut revenir, faut chercher, et le Seigneur nous enseigne par son esprit. Laissez l'Esprit de Dieu agir dans nos cœurs, laissez l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous. Jacques dira, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Être heureux dans son activité, réussir, pouvoir avoir cette confiance que le Seigneur nous communique, plonger les regards et surtout ne pas oublier. Vous savez, il y a cette image que Jacques donne de la personne qui se regarde dans le miroir, qui voit peut-être certains défauts, mais qui dès qu'il a tourné les regards, qui ne voit plus des défauts, il oublie que peut-être il est mal coiffé, peut-être il oublie qu'il a peut-être, je sais pas moi, un peu de bave sur la joue, qu'il a une tache, hein. Et dans la parole de Dieu, elle nous dévoile, elle nous met à nu, elle nous montre comment nous sommes vraiment, et nous ne devons pas être oublieux. Si le Seigneur nous donne des commandements, si le Seigneur nous donne des instructions, bien, ce n'est pas pour que nous restions toujours avec les mêmes défauts, mais c'est pour changer nos vies. Hein, on l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et s'il y a quelques tâches, s'il y a quelques disparités, bien, les Seigneur, nous les enlève. Il faut, avec la grâce du Seigneur, les enlever. Et c'est un combat que nous devons mener chaque jour, je vous disais tout à l'heure. Nous devons le mener dans la prière, pour nous-mêmes, pour l'Église, les frères et les sœurs, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » Entièrement agréable. Est-ce qu'on fait la satisfaction de notre Seigneur? Ah, c'est peut-être des fois, si le Seigneur pouvait nous dire, attention, là, il y a quelque chose qui va pas, mais notre avocat auprès du Père intercède et il prie pour ne pas que, bien, nous soyons, bien, confrontés à de mauvais désirs, de mauvaises passions. Et la connaissance ne peut s'acquérir qu'au travers, je le répète, de la lecture, de la méditation. Et sa parole nous est révélée par le Saint-Esprit. Il veut nous communiquer, il veut donner. Et c'est vrai que si nous ne cherchons pas la face du Seigneur, si nous ne cherchons pas sa volonté, si nous ne cherchons pas dans la parole de Dieu ce qu'il veut nous enseigner, nous aurons du mal à pouvoir expérimenter, nous aurons du mal à pouvoir vivre ce qu'il veut nous communiquer, vivre selon sa volonté. Et c'est vrai qu'accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours vouloir accomplir de grands exploits. Hein, ce n'est pas là. Ce n'est pas de jeûner des semaines entières. Ce n'est pas faire des pèlerinages. Ce n'est pas se mortifier. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à l'obéissance. Dieu regarde au cœur, aux motivations qui sont les nôtres. C'est vrai que ce n'est pas les sacrifices que Dieu agrée, mais c'est celui qui s'humilie devant sa face. Le prophète Michée dira ceci, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pouvoir être rempli de la présence de Dieu, bien c'est accepter, c'est connaître ce que le Seigneur veut nous donner. Ce n'est pas sur l'apparence que Dieu juge, mais c'est sur notre cœur, sur ce qu'il y a dans nos pensées, ce qu'il y a dans nos sentiments. L'Écriture nous rappelle ceci, c'est que Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Dieu, de Christ. Et il est dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiment de miséricorde, sentiment de compassion. Et c'est vrai que Dieu désire nous communiquer tout cela, nous remplir jusqu'à toute la plénitude. Est-ce qu'il vous reste encore un peu de place pour arriver à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? Vous savez, il y a cette image, je crois que c'est Adhémar qui nous en parlait un jour, des élèves qui demandaient à leur professeur, plutôt le professeur qui demandait à ses élèves de remplir un vase, il a mis des gros cailloux. Après, il dit, bon, est-ce que c'est plein? Oui, oui. Il en a rajouté des plus petits, ce coup. Est-ce que c'est plein? Oui. Il en a des plus petits. Et après, à la fin, il rajoute de l'eau pour que ce soit bien rempli. Et Dieu veut nous remplir jusqu'à la plénitude. Il veut mettre une dose bien, bien secouée, que son nom soit béni. Juste pour terminer, deux versets pour que nos vies soient bien remplies et connaître la plénitude de Dieu, et c'est important. Alors vous allez sourire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est Paul qui le dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres. Être rempli de l'Esprit. Et on peut se fortifier, on peut s'encourager au travers des chants. Pas obligé de venir le dimanche matin au culte pour chanter quelques cantiques. Il y a aujourd'hui beaucoup de procédés sur vos smartphones, sur vos portables, sur votre ordinateur. Vous pouvez aller chercher des cantiques et je me régale de temps en temps, en méditant le top chrétien, d'aller chercher quelques chants et de les écouter pour se fortifier. Et c'est vrai, de rendre continuellement grâce au Seigneur, ça nous évite de penser à bien d'autres choses et se remplir, s'encourager, se mettre à la disposition du Seigneur et pouvoir à tout moment le louer pour ses grâces, le louer pour ses bienfaits, parce que les cantiques sont aussi un moyen de s'enrichir, un moyen d'être rempli de la plénitude de Dieu. Pardon. Et puis ce dernier verset de Romains au chapitre 15 et au verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, et que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Abonder en espérance. Et là aussi, être rempli de l'espérance que Dieu veut nous communiquer, de croire que bien ce Seigneur qui nous a tout donné, qui a tout accompli à la croix du calvaire, eh bien que personne ne défaille, que personne ne puisse mettre en doute cette parole, que personne ne mette en doute cette puissance, mais que nous soyons pleins d'espérance, de croire que le Seigneur eh bien nous donne et nous le donne en abondance, afin que bien nous puissions, comme nous l'avons lu, nous encourager les uns les autres, nous soumettre les uns les autres, vivre dans la paix, parce que c'est ce que le Seigneur désire nous donner. Si ce matin, bien, je vous encourage à méditer la parole et à rechercher cette plénitude de Dieu, d'être rempli de sa connaissance, d'être rempli de sa sagesse, être rempli de sa paix, être rempli de son amour, et pour cela avoir besoin d'être enraciné et fondé sur sa parole, de s'accrocher aussi à sa parole, de s'accrocher à la personne de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, dans mon moment de détente, de prier, de chanter, de réciter des versets qui vous encourageront. Et si parfois vous avez quelques à la recherche, eh bien, le Saint-Esprit vous communiquera ce dont vous avez besoin au moment opportun. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai voulu par ses paroles, par ses pensées, bien vous encourager à aller plus avant, à aller marcher de progrès en progrès. Je ne le dis pas simplement pour vous, c'est d'abord à moi que je me le suis prêché et cherché ce dont j'avais besoin pour ma vie, d'être rempli de la plénitude et vous le partager ce matin. Que le Seigneur soit béni. On rend grâce au Seigneur.